RMC Football Show.
Personnellement, les fessées, ça me plaît pas trop. Peut-être certaines personnes qui s'en réjouissent de prendre des fessées, pas moi.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Il y a des boîtes spécialisées pour cela. Mais moi, je n'y vais pas dans ces boîtes-là.
Gilbert Brévois.
L'After est là jusqu'à minuit. Jérôme Rotten est là. Daniel Riolo est là. On va parler argent dans le foot dans quelques secondes, bien
encore
sûr.
Un message de Julien C.
Bon, on va le dire, c'est Julien Cazard. Il peut pas se passer de l'after celui-là.
Par rapport à notre, par rapport à notre petit jeu d'avant,
ce qui est fait maintenant,
et pénalty à la dernière minute dans un match, dans une finale de Coupe de la Ligue. Bernard Mendy ou Jérôme Rotten.
Mais par contre, pénalty, c'est pas le titre de son émission là. Non, il y a pas un pénalty dedans.
Non, c'est son ex-émission.
C'est fini.
Ah, qui a bien fonctionné.
Bon, sinon, il est fonctionné. Plus, sur Direct Studio, les noms tombent. Hein. Franck Sauzet, Ronald Koeman, Teddy Bertin, que j'ai
c'est quoi ce nom-là? Il donne des, Gilles, je suis pour le plaisir de donner des noms hors liste.
Bah, Ronald Koeman, il en a mis quelques-uns de 25 mètres.
Ouais, mais bon. Je l'aurais
Ronald
pas pris.
L'argent dans le foot. Attention, les gars, ça va redevenir sérieux, mais de façon très didactique, parce que bon, oui, l'argent dans le foot, oui, l'argent dans le foot, bon, okay, on en parle tout le temps, on fait au fond. Mais là, on va être précis. Luc Arondel est avec nous. Bonsoir, Luc.
Bonsoir.
Et merci d'être là. Alors, c'est pas tous les jours qu'on reçoit un chercheur au CNRS. Hein. Ben nous, on reçoit des joueurs, des entraîneurs, parfois des jardiniers, des trucs. Bon, donc on est ravis de vous avoir. On peut se tutoyer.
Ah oui, sans problème.
On a l'habitude, ouais. Donc c'est plus facile pour nous. L'argent du football, c'est une étude, je l'ai dit, très didactique et très sympa à lire. Donc c'est édité par le Centre pour la Recherche Économique et ses applications. Alors c'est pas un éditeur très commun.
Non, c'est pas très commun.
Ce livre a la particularité d'être disponible gratuitement en ligne.
Alors c'est téléchargeable, oui, en ligne gratuitement. Donc vous pouvez aussi avoir la version papier, c'est 12 euros. Et sinon, vous pouvez le télécharger gratuitement.
Ah bah, nos auditeurs vont être contents de savoir ça.
Eh ben oui, ouais, tout à fait.
Bravo.
Super.
Alors, vous avez monté ça de façon très claire avec des petites questions. Des questions que un peu tout le monde se pose sans forcément avoir les réponses. Donc, c'est ça qui nous a intéressés.
Oui, c'était pour faire un peu un état des lieux de l'argent dans le football. Quoi. Donc, on a posé des questions, on a fait un petit peu un état des lieux, effectivement, de toutes les questions que vous pouvez se poser. Bon, et on a pris les différents acteurs, donc les propriétaires, les revenus, les supporters et puis effectivement toutes les
propriétaires.
Oui.
On en parlait.
Oui, j'ai entendu.
Juste
oui.
Avant
oui.
Dans la première heure, ces nouveaux propriétaires qui débarquent en France là. Alors, il faudrait que je vous pose la question comme elles sont posées dans votre livre. Mais je sais pas à quel moment Luc. Je cherche la question.
C'est normal.
La question est simple. Quel est l'intérêt de détenir un club de foot?
Alors ça dépend des propriétaires. Hein. Donc effectivement, il y a différents profils. Il y a des milliards. On a vu. C'est vrai que le changement dans le foot, l'arrivée de l'argent dans le foot, c'est surtout au début des années 90. C'est là que ça a complètement changé. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle la période postmoderne du foot, où là effectivement on commence à avoir des droits TV qui explosent, l'arrivée des milliardaires, etc. Et je pense que aujourd'hui on est à l'orée un petit peu d'une nouvelle, peut-être d'une nouvelle époque. Justement, avec l'arrivée
époque, ça va être les fonds d'investissement.
Ben, c'en est un des facteurs, je pense. Que parce que si on regarde jusqu'à présent, bon, il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est-à-dire que j'ai rien vous apprendre. Un club de foot, c'est pas une entreprise comme les autres, contrairement à ce qu'on peut dire. Hein, ça n'a rien à voir.
Notamment, oui, mais eux pensent que c'est une entreprise comme les autres.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. En termes de rentabilité,
parce que si on regarde jusqu'à présent, jusqu'à une période récente, les clubs de foot ne font pas de bénéfices. Donc, ils font pas de bénéfices. Donc, ce qu'on a vu d'un côté, c'est une augmentation très forte des revenus, mais d'un autre côté, au niveau de la rentabilité, c'est peanuts, c'est rien du tout. C'est peut-être en train de changer avec, effectivement, comme ça explose vraiment fortement, c'est peut-être en train de changer du côté de Outre-Manche, etc., où là, les clubs commencent à faire des marges bénéficiaires, mais c'est comparativement à une entreprise classique, c'est rien du tout. Mais néanmoins, l'élément que vous avez souligné tout à l'heure, c'est le fait qu'on voit aujourd'hui arriver des fonds d'investissement. Et si des fonds d'investissement arrivent, effectivement, là, on rentre dans une logique économique qui est beaucoup plus traditionnelle, c'est-à-dire notamment avec une maximisation des profits. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je n'en sais rien.
Et qu'est-ce qu'ils font s'ils n'y arrivent pas? D'accord, donc essayons d'être concrets. On a Bordeaux, là, l'Américain, ouais, avec ce montage financier alambiqué auquel on comprend rien.
Ouais.
Mais au bout de 3 ans, il s'aperçoit que son idée de trading, là, de faire venir des gars ou de prendre 3 mecs du centre de formation et de les revendre, hein, bon, les mecs qui ont mis les billes, bon, ça rapporte pas tant que ça, cette affaire-là. Hop, on se casse.
Bah oui. Oui, bien sûr. Si vous êtes dans une logique de profit, si vous faites pas assez de profit, vous allez ailleurs. Simplement, je pense que c'est quand même pas.
Ils seront de revendre parce qu'ils ont quand même dépensé de l'argent pour l'acheter. Ils ont mis, je sais plus, 80, un truc comme
oui,
ça.
Oui, d'accord, mais bon, après.
Ouais, bah oui. D'accord.
Je pense qu'aussi, ce qu'il faut, c'est peut-être. Le fait qu'ils soient venus, c'est pas aussi par hasard. C'est-à-dire, ils espèrent aussi, il va y avoir l'augmentation des droits télé. On voit effectivement les gros clubs en Europe.
Ça fait de l'argent, ça.
Une augmentation des revenus de sponsoring. Ils ont, donc, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau, alors peut-être pas au niveau de Bordeaux, mais toutes les discussions qu'il y a au niveau de la réforme, de la restructuration des compétitions, notamment toujours cette espèce de serpent de mer de la création d'une Super League, qui est pas forcément non plus, par rapport à ce qu'on.
Et les nouveaux investisseurs, ça pourrait même le réclamer juste au niveau national. Tiens, dans l'édito auquel je faisais référence tout à l'heure dans France Foot, le journaliste qui était un petit peu catastrophé parce qu'il voyait en Ligue 1 et tout, disait à un moment, la Ligue 1, si elle se prend pas en main, si elle essaye pas de se transformer sur championnat à 18, voire à 16 clubs pour resserrer la compétition et pour que les mecs qui sont prêts à mettre des billes s'y retrouvent, ça va être cata, quoi. Donc on peut aller vers
autre question,
ce genre de choses-là.
Oui, autre question très simple dans le livre. Combien vaut un club de foot? Comment on peut le savoir?
Ah, ça c'est compliqué. Il y a différentes façons de le mesurer. Donc il y a les techniques qui s'appellent le goodwill. Il y a le fait de se baser sur des flux, etc. Après, effectivement, il y a tous les actifs du club et tous les actifs corporels et incorporels, puisqu'il y a le stade, etc. Donc c'est assez compliqué. Moi, je dirais une chose. De toute façon, la valeur d'un club, c'est on la connaît quand il y a une transaction. Je veux dire. C'est vraiment qu'il y a
une relation. C'est un peu doit mouiller quand même parfois. Parce que, bon, alors ok, il y a les actifs,
ouais, mais
les joueurs.
Non, c'est quoi ton expression? D'accord, doit mouiller. Mouiller.
C'est quoi l'expression en économie pour dire
Non, en économie, il n'y a pas de doit mouiller.
Comme quoi pour choper le vent.
Dans mon économie à moi.
C'est pour ça que j'étais un peu.
Tu connais pas cette expression au doigt mouillé?
Si, mais c'est
non, parce que
tu l'utilises dans ce cadre-là, en fait.
Non, le doigt mouillé, non, je ne connais pas trop, parce que bon, c'est vraiment l'évaluation.
En économie, c'est à la feuille comptable.
C'est pas comptable, mais là, il y a un offreur, un demandeur. Donc, effectivement, ils se mettent d'accord sur un prix. Le vrai prix, c'est celui-là, d'une certaine manière. Donc, c'est celui qui est révélé. Après, il y a pas mal d'agences, etc., qui s'amusent à évaluer les clubs.
À valoriser les clubs.
Il y a KPMG, il y a Forbes,
parfois il y a des trucs hallucinants. Coccolini Capital rachète le club à Canal.
Oui, il achète une poignée de fonds.
On nous avait dit publiquement, oui, c'est aux alentours de 100 millions d'euros, puis en fait on s'est rendu compte que c'était 25.
C'est 25, c'est le prix que les gens étaient prêts à mettre pour ça. Donc après, voilà.
Et puis il y avait personne d'autre qui voulait, c'est ça. Comme limite, Marseille a été vendu moins cher que Bordeaux.
Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et puis c'était en dessous de l'évaluation qui était faite auparavant. Alors le PSG, non, je crois que c'était à peu près ce qui avait été évalué. Maintenant, puis ça évolue énormément, donc.
Alors, on parle souvent du salaire des joueurs.
Oui. Hein,
ça, c'est le grand sujet récurrent à Marseille, notamment ces derniers temps, rappelez-vous, avec les petits rappeux-tout dans
les
tribunes.
Quelle va être ta question dans ce chapitre-là? Moi, j'ai la mienne, vas-y.
Alors, on va pas parler de la masse salariale, est-elle justifiée? Ça, on a déjà fait les débats mille fois.
Ouais.
Mais est-elle soutenable? C'est une question que vous posez dans le bouquin. Quelle est la réponse?
Ça, c'est la vraie question, parce qu'on a entendu beaucoup la question, est-ce qu'il y a une bulle financière, est-ce que ça va exploser, etc. Nous, on n'y croit pas. Enfin, alors, je rappelle que ce livre, je l'ai écrit avec Richard Duhautois, effectivement, donc je suis pas tout seul.
Donc vous deux, vous n'y croyez pas?
Non, on n'y croit pas. Non,
pourquoi?
On y croit. Bah, déjà, c'est quoi une bulle financière? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau des transferts, ni au niveau des droits TV. Une bulle financière, c'est simplement lorsque je vais rentrer un petit peu dans la technique, mais c'est quand les actifs sont évalués en dehors de toute référence à leurs fondamentaux pour une entreprise, etc. On a vu la bulle internet, on a vu la bulle immobilière. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le marché des transferts, parce que bon, pour l'instant, effectivement, la valeur de Neymar, par rapport à la rentabilité de l'investissement attendu, c'est pas forcément absurde. C'est pas forcément absurde.
Ouais, mais alors ça, pour être concret là-dessus, c'est à chaque fois qu'il y a un énorme transfert comme ça. On a du mal à comprendre. On se dit toujours, ah, c'est exorbitant, indécent, c'est ceci, cela. Alors qu'on essaye rarement, de comprendre pourquoi ça peut être rentable et quels chiffres on peut mettre en face.
Mais bien sûr.
Et quand les économistes s'expriment, ils disent que, finalement, Neymar 220 millions, c'est pas si cher que ça.
C'est pas si cher que ça. C'est-à-dire, effectivement, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du travail, des footballeurs, il est très particulier. Ce qu'on appelle en économie, c'est un marché dual. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les superstars, de l'autre côté le marché un petit peu
des joueurs moins. Les seconds couteaux.
Et sur le marché des... Bon, vous étiez sur les superstars, je pense.
Ouais, les seconds couteaux, je connais pas, moi. Ouais,
donc je vais parler de...
Faut venir vendredi, samedi, dimanche, là vous êtes sûr d'en avoir.
Donc, le marché du superstar, c'est que c'est un marché qui se caractérise par très peu de joueurs et beaucoup de demandes. Donc, si vous avez beaucoup de demandeurs et très peu d'offres, bon, etc., effectivement, les prix vont monter. Donc, c'est un peu, c'est le marché du superstar. Donc, effectivement, là-dessus, bon, c'est, par exemple, le PSG, bah, il faut un calcul et bon, d'une certaine manière, c'est un petit peu comme sur les marchés d'art. Donc ça n'a rien de scandaleux par rapport au marché de l'art, c'est pareil. Donc effectivement, d'une certaine manière, le PSG s'est acheté son Picasso. Je veux dire, donc
Ouais.
Alors tiens, on a Pierre avec nous au 32-16 qui veut revenir sur les investisseurs étrangers et parler du cas bordelais. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir,
on t'entend très bien. Bonsoir. Et on t'écoute.
Ok, ouais. Daniel, il se part de ses inquiétudes tout à l'heure. Mmh. Et nous à Bordeaux, inquiet, on l'est depuis cet été, clairement très inquiet, parce que du coup on a passé l'été à se renseigner un peu qu'est-ce que c'est qu'un achat effet de levier, tout ça. Et effectivement,
lui, il va pouvoir répondre,
Tu étais supporter avant, tu te posais la question tactique, tout ça, maintenant tu demandes ce que c'est qu'un effet de levier. C'est
ça,
une
nouvelle question pour les supporters quand même.
C'est ça, ouais. Non mais pour répondre à ce que disait Daniel, ce qui se passe, c'est que ces nouveaux investisseurs comme à Lille, à Nice, ceux qui voulaient aller à Saint-Té ou chez nous à Bordeaux, c'est pas leur argent, c'est l'argent qu'ils empruntent auprès de fonds d'investissement ou tout de placement. Et Joe Dagrossa, là, celui que vous voyez, il a mis que 2 millions de sa poche. Il y a 150 millions qui sont empruntés. Et cet emprunt, il a des échéances sur 3, 4, 5 ans. Et Bordeaux, concrètement, doit générer entre 20 et 30 millions d'euros sur les prochaines années, alors qu'on perd 7 millions d'euros par an depuis 10 ans. Et si cet argent est pas versé, c'est sous forme de dividendes qu'il doit être versé aux propriétaires, aux fonds d'investissement que nous on connaît pas, enfin qui sont King Street et Fortress précisément. Et si cet argent n'est pas versé, les fonds d'investissement qui sont derrière deviennent propriétaires du club. Joe Dagrossa, lui, disparaît, donc à Bordelais. Mmh. Et ces fonds-là viennent récupérer le club, deviennent propriétaires et deviennent des fonds vautours, en fait. Donc récupèrent le maximum d'argent qu'ils peuvent récupérer. C'est ça qui nous inquiète énormément, parce que contrairement à ce qu'on aime ou pas à Marseille ou à Monaco, ils ont mis leurs billes. À Bordeaux, à Nice, à Lille, c'est pas leurs billes, c'est des banques ou des fonds, en fait.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que c'est un modèle qui est étonnant, ou pas, Luc?
C'est un peu, il y a une dérive un petit peu de autour de cette financiarisation du football. Bon, on a vu à un moment il y avait les contrats TPO, etc., etc. Donc après effectivement, c'est quand on voit les fonds d'investissement, ils ont une manière un petit peu de se financer qui est un petit peu, c'est vraiment de la finance, quoi, je veux dire. Donc on lève des fonds. Il y a à Lille, c'est des fonds vautours. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un fonds vautour, mais bon,
on peut le rappeler. On l'a
donné. Fonds vautours, c'est effectivement on rachète des dettes à très bas prix pour essayer de les renégocier au prix nominal. Donc c'est des choses un peu bizarres. Donc là, vraiment,
on est quand même très loin de la performance sportive.
Bah exactement, on est vraiment dans la finance. Et c'est vrai que pour rebondir un petit peu sur votre question du début d'émission, effectivement, jusqu'à présent, bon, ce qu'on voyait, c'est effectivement même les plus grands clubs, bon, dégageaient pas de profit, donc ils étaient dans une logique de victoire, de performance, etc. Et c'est vrai que quand on voit apparaître ces nouveaux fonds, bah là, on va peut-être changer de logique. C'est vrai qu'on change un peu de logique économique, je veux dire. Pierre,
Par exemple, c'est pas nous qui sommes, on a peur de base, d'accord, mais c'est pas nous qui disons que c'est risqué, c'est que les taux d'intérêt, dans un monde où les taux d'intérêt sont à 0%, concrètement à Bordeaux c'est 9,25% et 12,5%. C'est-à-dire que c'est les fonds qui disent que c'est risqué, c'est pas nous, c'est pas les supporters, c'est pas De Taverneau avant, c'est pas M6, c'est les fonds qui prêtent l'argent, eux-mêmes disent que c'est très risqué. Parce qu'aujourd'hui quand tu prêtes à 12%, c'est que tu sais que tu prêtes à quelqu'un qui va sûrement avoir du mal à réussir. Et outre ça, le mec, en général, il met pas énormément d'argent. Et sportivement, vous voyez bien ce que ça donne. On n'est pas très optimiste, quoi. On est utopiste, on sait jamais, mais voilà.
Il y a peut-être une limite à ça. Luc, dis-moi ce que tu en penses. Mais imaginons, restons dans le cas de Bordeaux, que ces investisseurs, ils procèdent comme on vient de le dire. C'est-à-dire, dès que tu as Caramo ou un autre qui met un but, on cherche à le vendre. Ok. Mm-hmm. Mais cette logique-là, elle peut se heurter justement au fait que le foot est pas une entreprise comme les autres. Mmh. C'est-à-dire que t'as quand même des gens qu'eux considèrent et appellent les clients, c'est-à-dire comme l'auditeur qui nous appelle, qui est supporter de Bordeaux, et qui va au stade. Aller au stade, c'est de l'image, tu vends ce qu'est ton club. Si les mecs, au bout d'un moment, n'y vont plus, parce qu'ils disent, nous, ça nous plaît pas, et puis parce qu'en plus, ils voient bien que le côté sportif, ça intéresse plus, tout ça. Le club va perdre beaucoup en termes d'image, donc ça va dévaloriser également le joueur. Donc, mine de rien, dans ce discours que j'avais qui est un petit peu pessimiste, il faut peut-être apporter cet élément-là et dire qu'ils vont pas non plus pouvoir totalement financiariser le football. Il faut quand même qu'ils fassent attention à soigner leurs clients. Le client principal, avant d'être le client, celui qui achète mon joueur, c'est celui qui vient dans mon stade, qui achète mes produits, parce que tu sais, tu racontes toujours qu'il a voulu changer les buvettes et tout, là, le gars en arrivant, là. Ouais. Il faut quand même soigner ça aussi. Il faut quand même qu'il fasse gaffe à ça, le mec.
Ah bah oui, plus vous dites un client, bon, c'est vrai que supporter est un client aussi. Alors si le club était une entreprise un peu particulière, le client du foot c'est un peu particulier aussi. Ouais. Hein, le supporter c'est pas forcément.
Ouais.
Alors, effectivement dans les stades,
souvent disent ça.
Mais ça c'est faux. Quand on voit un petit peu comment se comporte un supporter en fonction de son budget, sa demande, etc.
Moi dans le parallèle entreprise, le supporter, je pensais plutôt que c'était, j'ai toujours dit que c'était plus proche du syndicaliste.
De quoi, le supporter?
Le supporter, ouais.
Ouais, c'est
l'ultra, le syndicaliste.
Ouais. L'ultra est plus le syndicaliste. Plus que les gens, le mec qui vient au stade est plus client, l'ultra, il est plus syndicaliste.
Ouais, c'est ça. Il y a Wenger qui avait fait, il y a les spectateurs, les clients, les fans et puis les supporters. Il y a quatre catégories, effectivement. Il y a un peu de tout dans les stades, mais c'est vrai
donc
que...
Donc, faut quand même qu'ils fassent gaffe à ça, quand même.
Oui, parce que, alors, l'exemple qu'on peut donner, c'est l'exemple d'Arsenal, déjà. Ouais. L'Arsenal alors, effectivement, on a dit que Arsène Wenger, il a eu un diplôme d'économie, hein, donc, il sait très bien ce que c'est. Effectivement, quand on regarde Arsenal, ils ont une gestion un peu de bon père de famille, entre guillemets, etc. Mais quand on regarde les paiements, alors effectivement, ils sont en très, très bonne santé financière, etc. Mais ça fait un bout de temps qu'ils ont rien gagné.
Et les supporters en avaient marre au bout d'un moment. Mais ils continuent à venir.
Ils continuent, mais ils sont pas contents. Disait,
Jérôme,
après, c'est vrai que c'est plus complet.
Jérôme, t'es passé par des clubs très différents. Parce que Troyes, on peut considérer que c'est plutôt un truc familial.
Local.
Comme Caen.
Oui.
Comme Caen.
En gros, c'est le patron de la boulangerie qui prend le club de foot.
En gros, le président du club de foot, il a aussi un but de rayonnement local.
C'est le baron local. C'est le baron local.
Ce qui s'est passé.
C'est passé par Monaco.
Et ça a toujours été comme ça.
À Troyes, c'est le.
C'est ce genre.
T'as vécu les Américains à Paris, vécu le système monégasque qui lui aussi est particulier.
Qui était différent parce que c'était la famille princière qui était...
Et dans le vestiaire, vous posiez la question, enfin, ou alors c'était un sujet, on s'en fout complètement du but finalement recherché par le président. Mais ou le patron du club.
En fait, c'est toujours pareil. C'est bien sûr que l'ambition, elle vient du vestiaire. Elle vient des joueurs, elle vient du staff technique, hein. Mais après, t'as un boss au-dessus.
Et si tu vois qu'en haut, le mec, il te dit rien comme au PSG, au bout d'un moment, tu crois plus à rien.
Exactement. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce que je te disais. Monaco, non, je l'ai pas vécu parce que bien sûr que c'est un club, géré par la famille princière.
À l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est
plus. Ouais, mais qui a toujours, à l'époque, les résultats étaient là. Monaco a toujours
Lui, il était dans le sport. C'était son jouet.
Oui, c'était son jouet, mais il te faisait sentir que lui était ambitieux. Et que voilà. Et que,
mais son jouet dans le bon sens du terme.
C'est Sugar Daddy.
Et que le palmarès, étoffer le palmarès du club, c'était important.
La danseuse.
Voilà. Mais à Paris, quand je suis arrivé, oui, c'était important avec Canal. C'était devenu beaucoup moins important dans le discours avec Colony. Et tu le ressens. Et mine de rien, même si dans ta tête, t'as envie de gagner des titres et tout ça, mais quand tu sais que tu démarres une saison et que toi, t'es dans cette optique-là avec les joueurs et le staff technique, et que au-dessus, bah, pas plus que ça. En fait, ils font attention aux finances. Ils font attention à quels joueurs ils vont acheter parce que il y a une revente à faire. Il y a d'autres objectifs aussi qui n'étaient pas que des objectifs sportifs. Hein, Colony, c'est exactement ça. Il y avait plein d'investissements qu'ils voulaient faire à travers le Paris Saint-Germain sur Paris.
Dans l'immobilier.
Et, voilà. Ouais. Et donc ça, tu le ressens. Et inconsciemment, il y a quelque chose qui s'installe dans le club. Et à l'arrivée, qui t'empêche de gagner, même si on a gagné des titres tous les deux ans.
Ah, pour finir sur ce thème, les gars, j'ai quelques il y a aussi des exemples internationaux qui sont intéressants parce que à chaque fois l'exemple qui revient, c'est le club de Sosios. Ça, t'as pas connu toi, Jérôme, puisqu'en France, on a pas. Hussein, qui est notre spécialiste du foot turc, nous dit moi, j'aime pas les clubs sociétés à l'anglaise, mais enfin, il y a pas de modèle idéal. En Turquie, c'est quasiment que des clubs de Sosios. Moralité, ils sont tous surendettés au bord de la ruine aujourd'hui. Voilà.
Parce qu'ils sont gérés en mode passion.
Ben oui. Ouais. Ouais, puis c'est bon qui gère le clubs en Turquie, je veux dire, donc ce n'est pas forcément le fait que ce soit les socios qui entraînent la dette. Je veux dire, c'est,
bon, bah, la preuve, le Real. Le Real, c'est un club de socios.
Ils étaient très endettés jusqu'à présent. Là, c'est en train de baisser. Leur endettement a baissé énormément, etc. Là, ils commencent à générer des profits. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, ça a été fortement difficile. Et notamment vis-à-vis de l'État espagnol.
Le président qui était élu par les socios était comme un homme politique qui devait répondre devant son peuple. En gros, les socios éventuellement visaient la réélection ou le maintien au pouvoir. Donc, devaient faire des promesses, des dépenses pour maintenir un certain niveau. Et puis, ils creusaient la dette. Et s'il y avait une année où il n'y avait pas de résultat, on était en catastrophe, quoi.
C'est ça. Ben, de toute façon, le fait aussi de d'embaucher les meilleurs joueurs, etc., c'est un peu une course à l'armement. Donc, effectivement, au bout d'un moment, si vous aviez pu, alors c'est vrai que là, le fair play financier a quand même a arrêté un petit peu tout ça. À partir de 2011, on voit quand même que l'endettement des clubs espagnols diminue fortement. Mais en Angleterre, c'est pareil. Alors, ils ont bénéficié aussi de la hausse des droits TV. Mais c'est vrai que ça devenait inquiétant. Donc
vous écoutez Luc Arondel, qui est chercheur au CNRS, et donc il a écrit ce bouquin avec Richard Duhautois, L'argent du football, donc chez CEPREMAP. Voilà, vous pouvez l'acheter ou bien vous l'avez gratos en ligne.
C'est tout ce qu'on est en train de dire, Gilbert, je te coupe, mais ça me revient à mon histoire, avec ma carrière. Quand je suis arrivé au Glasgow Rangers, qui est un club énorme au Royaume-Uni, c'était géré donc par les Américains. Le club, ils l'ont laissé en ruine. Ouais. Et il a dégringolé. Non, mais c'est la vérité. Et qu'un jour, quand je te disais que c'était important, t'as beau avoir un discours de vestiaire, un discours du staff technique, un jour ils viennent. Donc c'était début d'année, au mois de janvier, et ils te disent toi, écoute, il faut partir.
Ben oui.
Parce qu'on payera plus les gros salaires, on payera plus, et tu perds tes 3-4 joueurs les mieux payés. Le club a forcément dégringolé. Alors t'étais déjà champion, parce que là-bas c'est au mois de janvier déjà, il y a beaucoup de compétitions qui sont réglées. Mais en fin d'année, dépôt de bilan, et puis le club est reparti. Ils se sont barrés parce qu'ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment ils pouvaient pas rentrer dans les clous et qu'ils perdaient d'argent. Et au lieu d'en perdre beaucoup, ils sont partis.
Ils avaient visé à un moment aussi l'intégration à la première ligue.
C'était exact. Non, mais t'as raison de le dire, parce que c'était exactement ça entre Celtic et Glasgow Rangers. Intégrer la première ligue, c'était mieux, et eux, ils faisaient tout pour l'intégrer, sauf qu'en Écosse.
Donc, avec Luc, on va répondre à d'autres questions dans quelques instants, comme par exemple, faut-il réformer le système des transferts? Et puis cette question cruciale, la bière dans les stades, est-ce rentable? Donc on va voir ça.
Est-ce qu'on osera? Faut-il supprimer le fair-play financier?
Non, moi je pense surtout, est-ce qu'on osera, faut-il introduire la vidéo?
La vidéo.
on va pas.
La réponse est non, évidemment.
Ça ce soir, hier. Il y a mille autres questions dans le bouquin.
Allez, à tout de suite dans l'after avec Luc, et puis n'oubliez pas l'équipe type et l'équipe pipe d'Auxerre à suivre également, supporter de la JR, on vous attend avec vos propositions.
C'est l'équipe d'Auxerre, l'équipe pipe.
Ah, peut-être bien. Ouais. Allez, à tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jérôme Bretagne est là, Daniel Riolo est là, et nous recevons Luc Arondel, qui est chercheur au CNRS et qui donc a écrit le bouquin L'argent du football avec Richard Duhautois. Des questions très simples, basiques, comme celle-ci par exemple, Luc. Faut-il limiter les commissions des agents? Ça, c'est un débat qui revient régulièrement. La FIFA a émis le souhait de le faire. D'après vos études là, tous les deux, qu'est-ce que ça?
Alors, ce qu'on a observé, c'est, alors si on regarde en valeur nominale, effectivement, on s'aperçoit que les commissions des agents, c'est essentiellement les gros clubs. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que en part de budget, si on rapporte ça au budget, on s'aperçoit que les commissions jouent sont là où les commissions sont les plus lourdes, c'est pour les clubs du milieu de tableau. Hein. Et donc effectivement, ça pose un problème.
L'agent qui fait un transfert sur un club du milieu de tableau,
Non, c'est pas ça. C'est en part de revenu du club.
Ah
oui. Et ça c'est vrai que c'est problématique.
Dépense plus dans la commission
lâchée. Ah oui. Parce que ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que les gros clubs, bon, il y a des gros transferts, on en entend parler, mais finalement c'est très peu de joueurs finalement. Si vous regardez les gros clubs, regardez le Real Madrid l'année dernière, il y a pas énormément de transferts. Il faut savoir effectivement que les transferts, de toute façon, ça représente que 11% des transferts, enfin les transferts payants, c'est uniquement 11% des transferts. Hein. Sinon, c'est la plupart des joueurs, ils sont en fin de contrat. Donc effectivement, nous ce qu'on propose un petit peu dans le livre, c'est s'il y a peut-être des choses à faire, plutôt que de revenir sur le fair play financier, etc., c'est aussi de regarder ou de vouloir limiter la masse salariale, ou bien de vouloir limiter absolument ou taxer énormément les transferts. C'est de regarder,
oui, mais
effectivement.
Ça soit fait au niveau européen, c'est illusoire.
Exactement. De toute façon, ce sera une législation européenne.
C'est pas un sujet.
Jamais fait.
Donc, la masse salariale, il y a un thème intéressant, c'est parce qu'on dit toujours, on regarde les budgets pour dire, bah tiens, lui il a un gros budget, donc il est plus favori qu'un autre et tout. C'est plus la masse salariale qui est un indicateur de performance. Mais en même temps, un gros budget, c'est on peut
c'est pareil,
des gros salaires,
d'une certaine manière. Pareil, c'est vrai, quand on regarde la corrélation entre performance et budget, on a une corrélation très forte. Alors effectivement, dans quel sens ça fonctionne, bon. C'est
après, entre les gros clubs, là où les masses salariales sont plus importantes, est-ce que vraiment on dit les résultats vont avec la masse salariale?
Oui, c'est énorme. C'est énorme. La corrélation entre les performances et les masses salariales, au contraire, c'est même plus fort que les revenus, quoi. Et c'est vrai que
il faut peut-être avant de parier, là, avant de me faire une petite grille, je regarde les salaires des mecs, non?
Pardon?
Avant de faire une grille de parier,
oui,
regarde les
sûr.
Salaires des joueurs.
Oui.
Plus que.
Ah bah oui. Si vous regardez la masse salariale des clubs, alors effectivement, ça va plus jouer sur. Ça va plus jouer sur une saison. Ouais. Mais normalement, oui. Puis en plus, c'est un marché qui est assez.
C'est pas valable pour Lyon-Strasbourg, c'est vrai.
En termes d'efficacité, c'est un marché assez efficace. C'est-à-dire que le marché du travail est assez efficace. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que plus vous payez vos joueurs. Plus effectivement, les résultats sont là.
Oui, mais la magie du foot fait qu'il y a aussi des Andrézieux Marseille.
Exactement. Oui, mais ce que je veux dire, ce qu'il faut voir, c'est sur une saison. C'est pas. C'est là que c'est vachement
bien sûr.
Dans le foot, c'est que sur un match, il peut tout se passer. Je veux dire, et on parlait des supporters tout à l'heure.
Des erreurs.
Il peut y avoir des erreurs. Il peut y avoir les poteaux.
On peut filer des salaires élevés à un tocard.
Pardon.
On peut filer parfois des salaires élevés à un tocard, ça arrive.
Oui, mais c'est pas si fréquent que ça. Oui, parce que d'une certaine manière, quand on regarde un petit peu.
Il y en a un dans chaque club.
Oui.
C'est vraiment là, c'est vraiment révélé par le fait que quand vous regardez la corrélation entre la performance et la masse salariale,
il faut regarder la globalité de la masse salariale, pas le mec sur qui on s'est trompé.
Il y a forcément des erreurs, etc. Mais globalement, en moyenne, ça marche bien.
Il y a des mecs qui se vendent bien.
Oui.
Mais non, mais c'est vrai.
Alors là, on parlait des agents tout à l'heure. Il y a aussi toute la désinformation des agents, etc. Et puis on peut vendre. Je sais pas comment. Des fois, les clubs recrutent leurs joueurs, mais enfin, l'information n'est pas parfaite.
Il y a des bons vendeurs.
Il y a des bons vendeurs, exactement.
La bière dans les stades a-t-elle un effet sur la rentabilité et la fréquentation des enceintes sportives?
Ça, c'est difficile.
C'est un vrai sujet que vous abordez.
C'est un sujet parce qu'on avait fait une enquête sur les supporters et donc on s'était demandé effectivement si on mettait la bière dans les stades, est-ce que ça augmenterait la fréquentation? Et on a obtenu la réponse est affirmative, quoi. Effectivement, le fait de d'introduire.
Alors, dans quel pays il y a de la bière? Parce qu'en France,
En Allemagne, les stades sont pleins.
Alors,
c'est pas forcément qu'à cause de la bière. Pardon?
En Angleterre, il y a la bière.
Je crois, oui.
Ah oui, en Angleterre, en Allemagne. En fait, il n'y a que chez nous qu'on a, qu'il n'y a pas.
À l'OE 20.
En Angleterre, ouais.
Bien sûr.
C'est pas la loi 20.
Non, c'est vrai. Ouais.
Rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir. T'as raison. Luc. Non, je
vais faire la
fusion.
Tu vas faire la une du canal moyen.
Luc, en tout cas, c'est intéressant parce que c'est très didactique, donc on peut aller picorer un peu les chapitres de lire. Donc voilà, on le conseille.
On a encore le temps pour deux, trois questions ou on a plus le temps?
Allez, encore une.
Ouais.
Encore une.
Il faut bien finir cette histoire. On en a tellement parlé avec les enquêtes des différents confrères. Faut-il supprimer le fair play financier? On dit que si c'est attaqué, ça tombe.
Alors oui, de toute façon, d'un point de vue, si quelqu'un porte ça au niveau de la Commission européenne, ce sera légalement, ce sera supprimé. Simplement, on peut regarder. Alors, je pense que il y avait deux objectifs dans le fair play financier, donc tel qu'il a été vu par Platini. Il y a un, c'était effectivement le problème de l'endettement, puisque avant 2011, si vous regardez la masse de l'endettement des clubs, c'est assez important.
Ah oui, c'est tout le nœud du problème d'aujourd'hui. Ceux qui ont pu s'endetter et créer leur histoire et leurs effectifs et tout, et ceux qu'aujourd'hui ne peuvent plus le faire. C'est cette inégalité-là qui a posé problème, quoi.
Exactement. Donc l'autre objectif, et ça n'a pas du tout marché, c'est d'instiller un petit peu une balance, ce qu'on appelle un équilibre compétitif, c'est-à-dire une espèce de compétitivité entre les clubs. Là, visiblement, non, c'est pas ce qui s'est passé.
Alors, il faut le supprimer. ou on le garde quand même parce que ça permet de...
Alors deuxième chose, juste pour, pour, et c'est vrai que la justification par exemple, alors ça gêne surtout par exemple deux clubs en Europe, c'est Manchester City et PSG. Ouais. Et PSG. Et il n'y a aucune, a priori économiquement, il n'y a aucune raison de remplacher de mettre de l'argent dans le foot. C'est un peu surprenant quoi, j'ai dire, parce qu'effectivement, en plus, s'il y a bien, alors on parle souvent de ruissellement, etc. S'il y a bien une activité économique où le ruissellement ça marche, c'est le foot, hein, parce que on voit bien qu'effectivement plus une compétition est de qualité, etc. Plus elle se vend et donc plus ça retombe à travers les droits télé.
Ce que certains ont du mal à comprendre en France, parce qu'ils disent ouais, mais on nous avait dit le PSG machin que ça rendrait la Ligue 1 plus compétitive. Ce qui n'est pas le cas d'un point de vue sportif, point de vue économique. Oui, puisqu'ils vont toucher plus d'argent par le biais des droits télé qui ont été principalement augmentés du fait de la présence du PSG avec des vedettes. Ouais. C'est qu'en fait, l'argent est effectivement retombé dans les clubs. Enfin, quand les droits vont augmenter effectivement, c'est à partir de 2020. Ouais. Mais que encore faut-il bien l'utiliser pour augmenter sa compétitivité. Ça va être ça la grande question des années à venir pour notre football.
La grande question, c'est le fait qu'il y ait deux grandes compétitions maintenant. Il y a les Ligues nationales et la Ligue des Champions, quoi. Donc effectivement, si vous allez sur les deux compétitions, ça va être compliqué. Donc effectivement, le fait par exemple que le PSG soit performant en Ligue des Champions, effectivement, ça se vend. On va vendre le championnat français de manière plus importante et ça va ruisseler effectivement sur tous les clubs. Mmh.
Donc c'est quand ça ruisselle, il faut faire attention à bien récupérer ce qui tombe.
Bah là normalement les budgets des clubs
s'essuient au lieu de ramasser.
Bah ouais, là c'est 60% d'augmentation sur les droits télé en 2020, c'est énorme.
Bien sûr.
Luc, merci d'être venu dans l'After.
Vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt. Donc pour tous ces sujets économiques, l'argent du football, donc Luc Arondel et Richard Duhautois chez Cepremap, l'éditeur, mais disponible gratos en ligne.
Voilà. Aussi du Cepremap, oui, vous
pouvez. Voilà. Après c'est vrai que les vrais livres c'est mieux quand même.
Bon, oui.
Chacun fait son choix. Dans quelques instants, l'équipe type de l'histoire de la JOCR, ce sera peut-être Charbonnier dans les buts, mais peut-être Martini ou peut-être Joël Batz. Allez savoir. Ou Fabien Coul. Ah, déjà sur le gardien, il y a débat.
Ils ont gagné un titre de champion, c'était Charbonnier, et comme vous savez, avec lui.
On va voir. Lucien Denis va nous rejoindre. Et puis, on a débattu du VAR hier ensemble. Vous allez entendre Thierry Henry et Bruno Genesio qui donnent leur point de vue sur le VAR. Intéressant. Ah. C'est tout de suite dans l'after. Allez,
on demande la vie à Bruno.
RMC Football Show, l'Afterfoot, Gilbert Bribois.
Jean Bretonnet, Daniel Riolo également. Je rappelle les deux trois résultats du jour. Angers, donc Bordeaux en Ligue 1. Bordeaux a gagné 2-1 à Angers. Le Havre a battu Valenciennes 4-3 en Ligue 2. Et puis Lyon, France-Allemagne 25-25 tout à l'heure dans le choc du Mondial. Oui, je vous ai promis Bruno Genesio et Thierry Henry. Il y a de nombreux débats suite à ce week-end de vidéos. On en a parlé ensemble hier soir avec Pierre Ducrot. Jérôme, t'étais pas là. Écoutez ce que Bruno Genesio pense de tout ça d'abord.
C'est toujours à l'interprétation de l'homme, finalement. Nous, vendredi, on ne nous accorde pas un pénalty parce que la faute n'est soi-disant pas intentionnelle. Le dimanche soir, on refuse un but à Marseille sur une faute qui n'est pas intentionnelle. Donc ça reste toujours à l'interprétation de l'arbitre. Donc ça change rien pour moi. Oui, ça a réglé quelques problèmes sur des choses. Mais finalement, on se rend compte, rien que ce week-end, il y a trois erreurs. Enfin, il n'y a pas trois erreurs. Il y a trois interprétations différentes qui font prendre trois décisions différentes. Quelle est la vérité entre ces deux ? Où est la justesse de la décision prise par l'arbitre.
Donc il n'est pas content.
Il est avec nous, Pep.
Il est avec nous. Écoutez,
oui, Pep.
Écoutez maintenant Thierry Henry.
Après, quand tu revois l'image, en général, c'est pas souvent faux. L'erreur est humaine parce que c'est toujours l'arbitre qui prend la décision à la fin quand même, mais c'est long. Moi, c'est juste le truc pour moi, c'est que c'est long quand même, encore plus long sur le banc, surtout quand c'est pas pour toi.
Bon, donc lui, il est pas vraiment pas content, mais il est pas non plus très content.
Non, il parle juste du temps.
Une décision contraire
et hop, il balance
et il bascule chez nous.
Non, déjà, moi, je suis pas avec vous. Alors chez vous, c'est
toi, t'es à la porte, t'es à la lisière.
Et je pense que ça passe par. Alors attention, tout n'est pas parfait. On l'a vu. C'est vrai qu'il y a des, mais. Attends, je suis désolé. Si on parle, vous avez fait le débat hier sur le penalty pour du moins le but refusé pour Marseille. Attends, il peut lui casser le tibia au gardien.
Je sais pas. Nous, on n'est pas d'accord. Ah Eric Dimeco est dans notre camp. Pierre Ducrot est dans notre camp.
Des tacles à
Pierre, pareil. Il y a beaucoup de consultants parce qu'il paraît que pour juger de cette action, il faut avoir pratiqué le foot à haut niveau, sinon on n'y comprend rien. Juste pour cette action. Pierre est de notre côté et Eric aussi.
J'ai rien dit.
La preuve que tout est très partagé sur cette affaire-là.
De toute façon, ça reste, et Bruno Genesio l'a dit, ça reste à l'interprétation de l'arbitre dans tous les cas. Mais c'est vrai que quand tu arrêtes sur une image une telle semelle, t'es obligé de siffler faute de toute façon. Sinon, comment tu vas expliquer que le mec il va écraser le tibia?
Sauf que si tu ne vois jamais l'image clairement.
Non, mais là tu la vois l'image.
Oui, mais
non,
si ce que tu la vois pas,
c'est un arrêt sur image, c'est pas la même chose.
C'est l'image. L'image ne fait pas la faute.
C'est pas la même chose.
Il lui tord la cheville.
Tu sais ce que m'ont dit certains sur cette action?
Ouais.
Dans ces cas-là, si tu prends l'image une seconde avant, il y a pénalty. Parce que Benaglio, il fauche d'abord le pied avant qu'il lui mette les crampons sur le tibia. Si tu veux analyser, si tu veux faire un arrêt sur, tu fais un arrêt sur l'image, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu dans les cars régie et tout, t'as une espèce de molette que tu tournes et tu peux faire des arrêts sur image. Si tu fais un arrêt sur image une seconde avant, il y a pénalty.
Ouais, il y a un contact. Ouais, mais.
Lucas Rondal est resté avec nous.
Tu l'arrêtes en fait, c'est ça l'histoire.
Les gars, faut qu'on enchaîne.
Allez, au CR. Lu. Il est là, Lulu ou pas?
Lucien Denis est avec nous.
Salut les amis.
Lucien, t'as intérêt à être bon avec ton équipe d'Auxerre parce que là, on a bossé, nous.
Je n'en doute pas, Célestin.
Je veux pas que des mecs des 70s, hein. Trinquant, et tout ça, hein.
Alors, je rappelle le principe. Depuis le début de la saison, dans tous les grands clubs français, grands clubs français passent dans l'after comme ça les uns après les autres et on détermine ensemble, l'équipe type de l'histoire du club, mais aussi l'équipe pipe de l'histoire du club. Les meilleurs et aussi les pires.
Et il nous faut un grand témoin.
Et à chaque fois, il nous faut un grand témoin. Donc évidemment, pour Auxerre, Lucien. Lucien qui a été joueur d'Auxerre, qui a fait monter le club en première division, qui a été en finale de l'équipe de France.
Qui a pris le foot à Patrick Devers, on pouvait pas trouver mieux.
Voilà. qui a bossé avec Giroud pendant des années. Bref. Alors, Lucien, on va t'écouter, nous donner ton équipe type. Ah. Et puis tu peux nous expliquer pourquoi t'as fait les choix qui sont les tiens.
Explication. Alors,
écoute, Gilbert, ça a été très compliqué parce que on a vu passer tellement de bons joueurs. Voilà, faut faire un choix, on est bien obligé.
Bah oui.
Moi, pour moi, le plus beau gardien que j'ai vu depuis que je suis arrivé à Auxerre, c'est incontestablement Marian Šeža. Ce gardien polonais qui avait été médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Munich, qui est arrivé à Metz. Il a pas joué, il était barré par Patrick Barthes, on sait pas pourquoi. Il est arrivé à Auxerre en la première année de Ligue 2. Il a été tout simplement époustouflant. C'est un gardien qui n'avait jamais passé par un centre de formation. Il sortait de sa campagne. Mais alors, une classe pure, incroyable, incroyable.
Mais Lucien, qu'est-ce que tu nous fais de Martini, Batz, Charbonnier?
C'est bien ce que je t'ai expliqué il y a 30 secondes. C'est que j'aurais pu te parler effectivement de Martini, de Charbonnier, de Kuhl. Ils ont tous quelque chose, ces gardiens. Mais lui, incontestablement, en classe pure, même par rapport à les Joël Batz, qui étaient les super gardiens, il avait quelque chose de plus.
Ah, celui-là, dès le premier nom, tu nous as scotché. Parce que pendant la pub avec Jérôme, on disait Martini ou Charbonnier.
Ils auraient été très bons aussi. Voilà, ils ont été internationaux, mais lui, franchement, c'était quelque chose de très particulier, le garçon.
La suite, c'est quoi alors?
Alors, moi, latéral droit, j'ai beaucoup aimé Bakary Sagna.
Oui, Sagna,
qui pour moi a été un très bon latéral droit.
À droite, parce que là, sur l'image qu'on a, il a été mis à gauche.
Oui, effectivement.
Il y a une erreur.
À droite, Sagna. Dans l'axe?
Dans l'axe, j'aurais mis Laurent Blanc et Basile Boli. Mais j'aurais pu te dire William Prunier ou Franck Sylvestre.
Blanc, même s'il a fait même blanc, même une seule saison, ça suffit.
Puis
parce que
Verlatte,
c'est l'année du titre.
Ah, Franck Verlatte.
Ouais, c'est l'année du titre. C'est
moi j'aurais mis Verlatte.
C'est un choix.
Il faut faire les choix.
Même si t'as pas joué au foot, t'as le droit.
Ton quatrième en défense.
En quatrième, moi j'aurais mis Taribo West.
Avec ses pieds carrés.
Ah bah avec pieds carrés, j'aurais voulu l'avoir avec moi plutôt que contre moi.
Ouais, donc c'est vrai que Taribo West était.
Il jouait dans l'axe, il jouait pas à latéral.
Ouais, mais il a joué dans l'axe, c'était une défense à deux.
De toute façon, il a joué un peu partout. Ah, on s'en foutait où il jouait avec ses pieds, on savait pas s'il était droitier, gaucher, il était des sacoches.
Au milieu, alors vas-y, on t'écoute, Lucien.
Benoît Pedretti.
Ah tiens.
Ah ouais, sincèrement, moi je trouve qu'il a fait 3 saisons à Auxerre où il a été tip-top. Aux côtés de Sabri Lamouchi avec un numéro 10, Enzo Schifo. Pas mal, hein.
Ouais, Schifo qui s'écrit pas comme à l'écran, évidemment.
Non, Schifo, c'est bon.
Et puis devant, si c'est Zarma qui va y rua.
Si c'est Zarmac,
Zarmac sur un côté, là en revanche, excuse-moi, avec tous les ailiers gauches que vous avez eus.
Plutôt Djibril. Alors après, j'aurais pu te mettre Christophe Coquard, mais tu peux en mettre que 11, Daniel.
Bah ouais, mais mets les mecs à leur poste. Tu vas pas mettre Zarmac sur un côté.
Moi, je te mets la meilleure équipe possible.
Mais non, Zarmac sur un côté, il te touchait pas un ballon, Lucien.
Sur un côté, plutôt Djibril sur un côté.
Hein? Mais non, mais t'as eu 1000 ailiers gauches, mais moi, un ailier gauche. Entre Vaillera et Diomède.
Vaillera, il est là.
Il est où, Vaillera? Il est gauche.
Tu l'as mis où?
Oui,
Vaillera. Non, mais je sais pas comment ça a été mis à l'écran, mais on comprend.
Non, à l'écran, c'est n'importe quoi.
À l'écran, c'est vraiment n'importe quoi. On y comprend pas.
C'est pas grave. À la radio, on comprend très bien.
Chez nous, donc.
À la radio, on comprend très bien.
Ouais, non, mais bon, excuse-moi, mais à l'écran, c'est un scandale.
Oui,
ouais.
Effectivement.
Ah, entre Chiffaut et Vaillera, c'est un scandale.
Vaillera à droite.
Non,
Vaillera
à gauche.
Non, Vaillera à droite. Non, mais c'est d'accord.
Je pensais.
Et à droite, t'aurais pas mis Coquard, toi.
Si, Coquard, oui, pourquoi pas.
Je pensais que t'allais me citer Maisonnès.
Comment t'as pas mis Maisonnès?
J'aurais pu.
Mais t'as mis personne de ton époque.
Comment?
Ah oui, à part le gardien, il y a personne de ton époque.
Oui, bah écoute, tu me demandes la meilleure équipe possible, moi je te la donne. Tu veux que je te mette qui? Christian Roch? Ça te dit quelque chose? Jean-Paul Noël? Paul Brouin?
Ah non, ceux-là non.
Olivier Morel?
Ah non, Olivier Morel.
Jacky Perdriot, Lantier.
Perdriot, c'est bien après.
C'est même pas ton époque.
Écoute, on a eu Diomède, Martins, Guivarch, Carpeau. Je pourrais t'en citer une cargaison.
Hein. Non, mais il y en a beaucoup.
Ah, Guivarch, oui, bien sûr.
Bon, l'équipe, tu l'as faite après l'apéro, là.
Alors attends, Lucien bouge pas. Lucien bouge pas parce qu'on a Thomas qui est là, qui est un supporter de la JA lui aussi. Salut Thomas.
Salut les gars.
Thomas, t'as préparé ton équipe type toi aussi?
Yes. Alors il y a beaucoup de. Parce que je me suis appuyé moi sur la communauté forum AJA 1905.
Ouais. Hein,
parce que voilà. Il y a pas mal de points communs.
Entre Lucien, l'équipe de Lucien et la tienne?
Ouais, Marianne César, ce que a oublié de préciser Lucien en dehors de son palmarès, c'est qu'il a aussi contribué à la formation de Martigny et Charbonnier, en fait.
Il faisait
des allers-retours après sa carrière entre la Pologne et Auxerre pour les former, pour leur donner des conseils.
Ah ouais.
Donc c'est d'autant plus important. Vrai,
vrai. Ah, d'accord.
Qui t'a mis dans ton équipe qui n'est pas dans l'équipe de Lucien?
Yes. J'ai mis Radé à droite, moi. Pourquoi Radé? Parce qu'il est resté pendant longtemps en club. Il a été de la Coupe de France 2003-2005. Jamais un mot plus haut que l'autre, un exemple, donc Radé, voilà.
Ah ouais.
Moi, en milieu défensif, j'ai mis Violo quand même, parce que le mec, il est de l'année du titre de champion, et après, il vient finir sa carrière à Auxerre, il fait 3 ans encore monumental.
Ouais.
Donc voilà, après, j'ai pas tout bien entendu, mais en relayeur, moi, j'ai mis Corentin Martins.
Ah oui, comme Martins. Et on n'a pas cité Ferreri. Jean-Marc Ferreri, quand même.
En milieu, moi, j'ai mis du coup aussi Enzo Sifo. Et par contre, je suis d'accord avec la remarque. À gauche, Vaillera et à droite, Coquard. En attaque, Zarmac. Et par contre, super sub, Djibril Cissé. Parce que c'était dur de pas le faire. Faut le faire rentrer, en fait, Cissé.
C'est
du gâchis de le mettre sur un côté. Voilà.
Ouais. Après, parce que Auxerre, c'était le 4-3-3. Donc, il y avait un 10. Et entre Martins, Sifo, Ferreri... C'est dur de choisir. Même dans les seconds couteaux, Moussa Saïb a été un excellent joueur. Ah, mais bon, c'est vrai, pas au niveau de Ferreri et de ceux que j'ai cités avant dans l'apport à Auxerre. Il y a eu pas mal de bons joueurs. Parce qu'en fait, Auxerre, il jouait avec un 6, un 8, un 10. Hein. Il y avait en gros un 6, un relayeur et un 10. Hein.
Alors maintenant, on va passer à l'équipe PIP, si vous le voulez bien.
Ah.
Thomas, est-ce que tu as une équipe PIP?
Ah oui, elle est belle.
Ah vas-y, alors, balance. Sous le contrôle de Lucien. Si Lucien, il y a un truc qui ne te plaît pas, tu hurles. Hein.
D'accord. Alors là, c'est un peu dur, mais gardien Hamel, parce que à chaque fois qu'il était remplacé...
Ah, il n'a pas joué, lui. Il n'a pas joué.
Mais oui, mais à chaque fois, les rares fois...
Olivier Sorin, très gentil, mais le moins bon de tous.
Il est de l'équipe qui nous a qualifié en Ligue des Champions avec Cielo.
Lui il devrait descendre en Ligue 2, faut pas dire ça.
Bon. Arrière gauche Berto. Voilà. Ouais. Alors ensuite Marcos Antonio, ça va peut-être pas vous parler. C'est le premier Brésilien de l'histoire d'Auxerre.
Ah ouais.
Et en fait, il avait fait une Chuyung Park. Vous savez, le joueur de Lille de Monaco.
Ah, déjà, l'info, c'est que les Brésiliens à Auxerre.
Et lui, il devait signer à Caen.
Ouais.
Et il a signé à Auxerre et on s'en serait bien passé au final.
On a eu Pedro Reyes aussi. Hein.
Ouais. Et là, ça va être un peu sévère. On va peut-être me tomber dessus. Ça a été un long débat avec la communauté. J'ai mis Mexès. Parce que partir comme un voleur à la Roma, comme il l'a fait, que ça a qu'une histoire.
Ah oui, alors c'est par vengeance que vous le mettez.
Ah ouais, mais bon joueur,
bon joueur. Ouais, mais c'est quand même un bon joueur.
Mexès, il aurait pu être dans l'équipe type aussi, hein.
Mexès, c'est l'époque des maillots moulants Kappa.
Maillots moulants, chaussures de deux couleurs différentes.
Comme tu dis, Daniel.
La totale.
Point soleil. Ah oui, passage au point soleil avant les matchs.
Point soleil, 3 heures par jour, c'est rare. C'est ce qu'il faisait.
Thomas, dans ta défense, il en manque un là. Ah non, t'as tout dit. Non, au milieu.
Non, il manquait Popov, le Macédonien arrière droit. Alors,
sûr, on l'a oublié. Popov, un Macédonien Popov.
Milieu défensif, Frédéric Thomas. Parce que quand on l'a recruté du Mans, c'était. Enfin, voilà. On y croyait beaucoup.
Tu pensais faire une bonne affaire, ouais.
Ouais. Milieu central de bloc.
Ouais. Venait de Sedan.
Sedan, ouais.
Milieu offensif Haddad, il arrive de Châteauroux, meilleur passeur de Ligue 2, on se dit ça y est.
Ah, Haddad. Rudy Haddad.
Ils sont entraînés avec moi, je vais apprendre à faire les passes.
Et devant
Eliego Gemma, parce que c'est magnifique.
Issam Gemma, ouais.
À droite, j'ai mis Toifeyou Maouida, l'homme aux deux pénorités pour ce premier match.
Ah ouais, il avait fait fort.
Qui sait, je vais entendre.
Toifeyou, notre ami, Toifeyou. Et en pointe.
Et en BU, un attaquant polonais qu'on avait recruté en 98 qui s'appelait Kuzba. On nous l'a vendu comme la grande lignée des attaquants polonais à Auxerre. Et en fait, non.
Bah non.
Et je me permets juste deux petites choses pour finir. Le chouchou pas bon. Le chouchou pas bon, c'est Oliech. Parce que l'ascension de ce mec, c'est pas un grand footballeur, mais il est attachant. Et quand même, vers la fin, il était plutôt pas mal à Auxerre. Et l'ambassadeur, j'ai mis Cantona. Parce que Cantona, on peut pas le mettre dans l'équipe type, mais c'est le mec le plus connu qui joue à Auxerre. Il a été formé, donc l'ambassadeur.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Bravo Thomas, bravo Lucien.
Attends, une dernière question à vous deux. Le plus gros bid financier, le mec sur qui vous avez mis le plus d'oseille, mais ça a foiré. C'est quoi?
Mais ça n'existe pas, Auxerre. Perdre de l'argent.
À un moment, vous avez quand même signé un ou deux chèques, merde.
Avec les Chinois, mais plus pas à l'époque de Giroud, il n'y avait jamais d'argent.
Si on raisonne ainsi, c'est quand même Maouida, parce qu'il y avait Giroud dans la transaction de l'autre côté à Marseille, quand même. Donc on perd Giroud, qui était quand même un sacré joueur. Ah, on récupère Maouida. Il est reparti 6 mois après. Merci, bonsoir. Bon, voilà.
Bravo Thomas. Lucien, merci d'avoir joué le jeu.
Merci Lucien.
Merci à vous les amis.
Bravo. À bientôt.
Et à très vite. Lucien qui suit bien sûr Auxerre pour RMC depuis des années. Luc, à très bientôt dans l'after. Nous on revient demain. Demain plein de matchs, hein. Donc demain, n'hésitez pas. Foot, ouais. Et puis le gagnant de notre jeu, ce soir c'est Aurélien qui est là. Salut Aurélien.
Bonsoir messieurs.
Okay. Aurélien, t'as été tiré au sort, mon petit Aurélien, je te dis que ce soir t'as gagné une tablette.
C'est bon ça.
Très cadeau, c'est offert par
l'acteur. Juste sur au sort, il vient et dit bonsoir.
Merci
beaucoup.
Bravo. Et demain, on a encore des cadeaux.
C'est moi qui offre aujourd'hui. Daniel, demain.
Demain soir, on sera là vers 23h après tous les matchs, notamment Saint-Etienne-Marseille. Bonne nuit à tous et à demain.
Bonne soirée.
Ciao. RMC Football Show, l'After Foot.